Il est 21h30 à Goma, une heure de moins à Paris.
Afrique Soir sur RFI, Zéphirin Quadio.
Bonsoir à toutes et à tous. À la une, l'inhumation d'une centaine de corps à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Corps des personnes tuées dans les affrontements de la semaine dernière entre l'armée appuyée par ses alliés et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans la capitale de la province du Nord Kivu. L'opposant tchadien Ibni Oumar Mahamat Saleh, disparu il y a 17 ans, aurait été enlevé à son domicile par des forces de défense et de sécurité tchadienne. Ce sont les conclusions de l'enquête d'une commission mise en place en 2008 sur demande de la communauté internationale. De nouveaux éléments sur la mort de nos confrères Ghislaine Dupont et Claude Verlon, tués par après leur enlèvement à Kidal, dans le nord du Mali, en novembre 2013. Éléments révélés par le journaliste français Olivier Dubois dans son livre « Prisonniers du désert, 711 jours aux mains d'Al-Qaïda ». Oui, au moins une centaine de corps ont donc été inhumés aujourd'hui à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, la capitale de la province du Nord Kivu, en grande partie tombée, selon les mots du porte-parole du gouvernement congolais. Ces corps sont ceux des personnes tuées dans les affrontements de la semaine dernière, entre l'armée appuyée par ses alliés et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Alexis Guilleux, les volontaires de la Croix-Rouge et de la protection civile ont inhumé les corps au cimetière d'ITG.
Les corps sont emballés dans des sacs blancs, apportés par des camions de la Croix-Rouge. Ils sont descendus dans des tombes. L'odeur forte oblige les quelques curieux à se boucher le nez. Christian Mourara habite le quartier de Boujovou.
Tant de malheurs, tant de tristesses, comme par exemple, si vous pouvez voir les personnes qui viennent d'être pensées comme ces personnes vraiment. C'est tant de malheurs vraiment.
Ghislaine Kaliza, âgée de 38 ans, est sans nouvelles du corps de sa petite sœur.
Avec tout ce que l'on voit, tout ce qu'il se passe, tout cela nous angoisse. J'ai perdu ma petite sœur. Nous sommes allés la voir à l'hôpital Charité. On nous a dit que la Croix-Rouge a emporté son corps. C'est très triste. Nous pensons beaucoup à elle. Que Dieu l'accueille. Elle a été tuée au quartier Chirambo.
Alain Mangolopa est le coordonnateur de la réponse humanitaire à la crise au Nord Kivu. Il explique qu'il est important d'inhumer les corps pour éviter le risque d'une épidémie.
Vous voyez les corps dans l'état dans lequel ils sont, et dans la communauté et dans les hôpitaux. Il était très crucial pour l'OMS de pouvoir apporter la contribution aux côtés des équipes de CICR pour que nous puissions faire ces enterrements dignes et sécurisés et réduire les risques de transmission des épidémies dans les hôpitaux et aussi dans la communauté, au vu des risques de choléra que nous avions ici dans la crise humanitaire.
Selon l'ONU, au moins 700 morts ont été enregistrés à Goma lors des récents affrontements. Plusieurs centaines de corps attendent toujours d'être inhumés.
Alexis Guilleux, et puis toujours en RDC, 8 personnes reconnues coupables du meurtre d'un journaliste condamné à mort à Lubumbashi. Patrick Adonis Numbi, patron de la chaîne de télévision Pamoja Canal, personnalité bien connue des médias congolais, avait été retrouvé mort le 7 janvier dernier dans le quartier Gécamines de la capitale de la province du Haut-Katanga. Un assassinat particulièrement violent qui avait ému la communauté journalistique du pays. Dans cette affaire, 3 femmes ont aussi été condamnées à 2 ans de prison pour avoir caché les auteurs du crime. L'Afrique du Sud accueille à partir d'aujourd'hui, dans la ville du Cap, le Mining Indaba, la conférence annuelle sur les mines en Afrique. À cette occasion, un message vidéo enregistré de la première ministre congolaise a été diffusé lors de la cérémonie d'ouverture où elle exprime sa profonde gratitude à l'égard de Pretoria. Mais sur place, les partis politiques continuent de critiquer le gouvernement pour son déploiement en République démocratique du Congo. 14 soldats sud-africains appartenant à des troupes de la SADC et de la MONUSCO sont morts au combat depuis le début de l'offensive du M23. Ce lundi, le président Cyril Ramaphosa a donc profité de sa lettre hebdomadaire à la Nation pour justifier la présence sud-africaine dans l'est de la République démocratique du Congo. Les précisions de Claire Bargelès.
Cyril Ramaphosa a tenu à répondre ce matin à ceux qui affirment que les troupes sud-africaines ne devraient pas se trouver au Congo. La violence et les conflits en Afrique sont l'affaire de tous les Africains, écrit-il, ajoutant que son pays ne relâchera pas son soutien envers le peuple de la RDC afin qu'il obtienne la paix et la sécurité qu'il mérite à juste titre. Lors d'échanges interposés sur les réseaux sociaux la semaine dernière, la tension était rapidement montée entre Pretoria et Kigali, le président rwandais accusant la SAMIDI-ARCI de ne pas être une force de maintien maintien de la paix jusqu'à un échange téléphonique entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays qui a permis de faire redescendre la pression. Le chef de l'État sud-africain a précisé dans sa lettre qu'il relaie l'appel du Conseil de sécurité des Nations Unies visant à exhorter le M23 à se retirer des territoires occupés et les forces externes à se retirer du pays. Quant à l'avenir des troupes de la SADC, en très mauvaise posture sur place, Cyril Ramaphosa a assuré que tout serait fait pour que les soldats soient bien équipés et soutenus et que la mission ne pourrait ralentir que lorsqu'un cessez-le-feu sera mis en place. Claire Bargelès, Le Cap, RFI.
Cela fait 17 ans aujourd'hui que l'opposant tchadien Ibni Oumar Mohamed Saleh a disparu sans laisser de traces. C'était le 3 février 2008 lors d'une attaque de rebelles sur la capitale, N'Djamena. Selon les conclusions de l'enquête d'une commission mise en place en 2008 sur demande de la communauté internationale, Ibni Oumar Mohamed Saleh aurait été enlevé à son domicile par des forces de défense et de sécurité tchadiennes. Mais les autorités tchadiennes ne reconnaissent pas les conclusions de cette enquête. 17 ans plus tard, et alors que le pays sort de 3 ans de transition, Hicham Ibni Oumar, le fils de l'opposant disparu, n'espère rien de ce changement de pouvoir.
Une justice est censée être indépendante et des changements politiques ne devraient pas influer un résultat ou un travail judiciaire. Maintenant, on sait ce qu'il en est. Ici au Tchad, on est arrivé vers un non-lieu. Le dossier n'a pas été rouvert depuis, malgré qu'il y ait des éléments nouveaux. Le parti même, fondé par mon père, a occupé le ministère de la Justice, mais ceux qui étaient là n'ont pas daigné rouvrir le dossier. Donc je ne pense pas qu'un changement générationnel puisse changer les choses. Ça, la grande question, c'est est-ce qu'on va enfin arrêter avec l'impunité au Tchad ? Ce n'est pas vraiment une question de personne ici, c'est une question de volonté de rendre la justice indépendante pour qu'elle puisse faire son travail correctement. Maintenant, dans cette affaire-là, il y a des implications du gouvernement français, et c'est pour cela d'ailleurs qu'on a pu déposer une plainte en France, et donc pour cela, il faudrait que toutes les parties prenantes soient impliquées et qu'on ait la vérité une fois pour toutes.
Un propos recueilli par Victor Moria. De nouveaux éléments sur la mort de nos confrères Ghislaine Dupont et Claude Verlon, abattus peu après leur enlèvement à Kidal dans le nord du Mali le 2 novembre 2013. De nouveaux éléments révélés par le journaliste français Olivier Dubois dans son livre « Prisonnier du désert, 711 jours, main d'Al-Qaïda ». Olivier Dubois, qui, je le rappelle, a lui-même été otage d'Al-Qaïda pendant 2 ans. Il raconte sa captivité. Il explique avoir tenu en poursuivant son travail de journaliste auprès de ses geôliers et qu'il a notamment interrogé sur le double crime de Kidal. Témoignage qui est un espoir pour les familles de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon. Guillaume Thibault.
Si les familles de nos confrères, comme Olivier Dubois d'ailleurs, se questionnent sur la valeur à donner aux propos de Sedan Aguita, la volonté reste de faire progresser l'enquête. L'association des amis de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon a demandé une nouvelle déclassification de documents de l'armée française. C'est ce qu'explique la porte-parole de l'association, Daniel Gonneau.
Y a-t-il eu une interférence avec l'armée, avec les forces spéciales ? Tant que nous n'avons pas les documents qui justifieront de leurs actions réelles, en particulier le compte-rendu des forces spéciales de Kidal, nous ne pourrons que nous poser des questions.
Devant les médias, Olivier Dubois a toujours affirmé que Sedan Aguita, lors de sa rencontre avec lui la veille de sa libération, avait évoqué un survol du commando par l'armée française. L'avocate de l'association des amis de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, maître Marie Dosé, estime néanmoins que l'ex-otage a été moins clair devant le juge et qu'une nouvelle audition serait envisageable.
Il n'indique absolument pas que Sedan Aguita lui aurait parlé de ça. Il est tout à fait possible, en droit, de solliciter une nouvelle édition pour recueillir les observations du témoin. Je verrai, le moment venu, ce que mes clients souhaitent que je fasse. Nous verrons bien.
Sur les 4 membres du commando qui ont assassiné nos confrères, un seul serait encore en vie, un certain Amédou Agmohamedi. Interrogé par Olivier Dubois sur l'existence de cet homme, Sedan Aguita lui a répondu « Nous n'avons personne de ce nom chez nous ».
Guillaume Thibault. En Gambie, un programme d'émigration légale vers l'Espagne provoque la cohue. Lundi, plusieurs centaines de personnes ont tenté de récupérer un formulaire pour participer à un programme de migration temporaire en Espagne. Ce matin, dès l'ouverture des bureaux, la distribution des formulaires a dû être suspendue quand des candidats ont escaladé l'enceinte de la cour du bâtiment et que des bagarres ont éclaté. Une scène similaire a eu lieu mardi dernier à Dakar, la capitale sénégalaise, où des centaines de personnes se sont ruées dans l'enceinte d'un bureau chargé de recueillir les candidatures à des postes d'ouvriers agricoles saisonniers en Espagne. Il est 20h et bientôt 40 minutes ici à Paris, une heure de moins à temps universel. Ainsi s'achève cette deuxième édition d'Afrique Soir. Excellente soirée à l'écoute de Radio France Internationale.